Aujourd'hui, dans ce magazine hors format, on vous propose la suite de nos aventures à Matra-sur-Terre pendant l'été 2020. Le premier épisode était diffusé la semaine dernière sur nos ondes. Matra-sur-Terre, c'est le nom de cette association montée par une bande d'amis qui ont investi le domaine des Matras dans l'Allier afin d'y construire leur lieu de vie en collectif et d'y faire pousser tous les projets qui animent leurs esprits. On continue donc cette semaine le tour du propriétaire, 8 hectares tout de même, le tout saupoudré de quelques bribes d'entretien réalisées avec Virgile, Christian, Dina, Elio, Lorelai et Titouan, les habitants et habitantes du domaine des Matras.
Oui, on va faire le tour du potager
ouais,
un peu.
Allez.
Enfin, je dis potager, c'est un sacré potager, quoi. Du coup, il me disait de voir avec toi, Virgile, comment ça se passait, l'approvisionnement pour l'instant, ce que vous réussissez à avoir produit sur le terrain.
Bah, tu vois, là, il y a les carottes, qui sont presque bonnes. On les voit sortir. Tout ce que tu vois au milieu, c'est du céleri, dans la serre, du coup. Donc, ça fait des belles feuilles. Hein. À gauche, il y a les aubergines. Et pour l'instant, ce qu'on a de plus, c'est les courgettes, quoi.
C'est la saison.
Ouais. Et les tomates, elles commencent à arriver en grosse quantité. Mais on a eu du mesclun, mais il est vite monté en graines. Donc on en a relancé. Mais...
Et du coup, quand vous avez planté, est-ce que vous avez un peu genre calculé combien il faudrait de ça pour que ça tienne pendant toute la saison, pour faire des concerts, tout ça? Est-ce qu'il y a eu...
On a essayé.
Ouais.
Je leur avais fait un petit guide pratique, on va dire, sur lequel se baser. Après, eux, ils ajustent en fonction du temps qu'ils ont, de ce qu'ils veulent faire, de comment ça se passe. Donc il y avait un guide qui comprenait essayer d'être sur ce qu'on plante, ne pas avoir en acheté, donc déjà être indépendant sur ce qu'on plante, et avoir en plus pour vendre au marché des petits plants au début de saison et éventuellement des légumes qu'on a en trop pendant la saison. Ça c'était le plan initial. On s'y est plutôt bien tenu, je dirais, sur la plupart de ce qu'on a planté, mais pas sur tout encore.
Deuxième serre.
Ouais. C'est le pastèque.
J'avoue, les pastèques, elles sont pas mal. Ouais. En plus, on a vu la photo que vous avez mise, ouais, c'est dommage.
Non, agréablement.
Tomates, courgettes.
Ouais. Il y a du pâtisson aussi, un petit peu.
Pâtisson.
C'est ce qui ressemble à des soucoupes volantes, là.
Ah, mais les courges.
Oui, c'est des courges.
Toujours des courges. Ouais. Bon, il y a du basilic, mais ici, il a pas tellement pris.
Au fond, là-bas, il est beau, quand même.
Ah oui, c'est vrai qu'il est au fond. Ouais.
Ah, ouais, j'avoue.
J'ai oublié, je crois que c'est dans la serre. Non, il a fait un beau buisson. Mais après, tu vois, tout le long des tomates, on en a mis aussi et il n'a pas pris.
Il paraît que si on plante du basilic à côté des tomates, ça donne le goût aux tomates.
Ah ouais?
Enfin, je sais pas. J'ai lu ça, je sais pas si c'est un fake. Enfin,
je pense que c'est juste que t'as de quoi ramasser ta salade pas loin l'un de l'autre.
C'est peut-être ça. C'est peut-être juste ça, en fait.
Pour faire la salade.
C'est chiant parce que les pastèques, elles auront le goût de basilic.
Bah, remarque, pastèque basilic, ça se trouve, c'est pas mauvais.
Basilic, ça va avec tout. C'est la ville, basilic. Ouais. Là, c'est des tournesols qui sont pas encore en fleurs, contrairement à ceux dont on est passé devant tout à l'heure. Le but pour les tournesols, pour l'instant, c'est plus d'être joli, mais aussi qu'on commence à faire nos propres stops de graines. Pourquoi on voudra faire plus de tournesols pour manger, quoi, pour faire un peu de tout ce qu'on peut en faire. Donc le but, c'est de, pour l'instant, c'est plus pour la fleur. Et la graine, on voit, hein, chaque graine donne encore des centaines de graines. Ouais, donc ouais. De nous faire notre propre stock de graines ici, à partir des graines qu'on avait de base.
Et pour tout ce que vous plantez, du coup, les tomates,
pour tout, ouais. Bah alors, pour le coup, les graines, c'est souvent... soit c'est les miennes, donc c'est des graines de variétés que je plante depuis longtemps dans le sud, et qui se sont plus ou moins bien adaptés, on va dire, donc faut le temps un peu que ça se réadapte. Sinon, on en a racheté un stock, on a racheté plusieurs stocks de graines de plusieurs variétés que j'avais pas, ou que j'avais pas forcément envie de faire les graines à l'époque parce que trop contraignant, mais là on commence à réfléchir à faire les graines de tout ce qu'on peut, ouais. Là c'est de l'ail. C'était un test et ça, c'est un des terres argileuses, le poireau et l'ail ça pousse bien, donc c'est l'avantage.
C'est quoi comme haricot, ces trucs violets?
Vérifie si les goûteurs ils passent partout, parce qu'avec les plis qu'il y a là...
Je sais pas ce que c'est, ça, faudrait regarder. On a planté tellement des haricots que... Tu te rappelles toi, Christian, cette variété?
Ça coule, ça coule.
Ah, la variété des haricots rouges comme ça, non, je me rappelle plus. Bah, le nom, je me rappelle plus.
Ouais, ça repart.
Ça repart de ouf là, maintenant qu'on a mis le bout de goutte.
Alors qu'ils avaient une salle de là.
Mais par contre, c'était un grand lui.
Un grimpant, ouais.
Ouais.
Ah oui, parce que du coup, dans les graines que je leur avais données, il y avait des grimpants et des haricots nains.
Ok.
Et je leur avais pas spécifié. Du coup, ils ont planté des nains pensant que c'était des grimpants et vice versa.
Il y a des endroits blague. Là-bas où c'est bien tutorisé, mais ça n'a pas poussé vu que c'est des nains. Et là, on avait mis plein de tuteurs à la base, alors qu'ils ont... ils poussaient pas. Il y a des tests ratés.
Là, c'est le principe du test, c'est que c'est pas toujours réussi.
C'est vrai.
Donc là, les patates, c'est
une belle patate.
Ah ouais, non mais les patates, c'est trop cool ce système de culture là. Vous faites en paillage là?
Ouais, directement posé sur le sol, paillé par-dessus, éventuellement repaillé en cours de saison. Je sais pas si vous l'avez fait.
Ouais, on l'a fait deux fois.
Et du coup, elles vont grandir sous le paillage, et t'as juste qu'à écarter le paillage, ramasser les patates, laisser les petites pour qu'elles continuent à grossir, et ça t'augmente ta saison.
Et du coup, t'es pas obligé d'arracher le plan à chaque fois que tu récoltes tes patates, quoi.
Et ça, c'est un ancien tas de caca.
Très bien.
J'essayais de trouver un beau mot pour le dire.
C'était
une déjection humaine.
D'accord. C'est là que vous vidiez vos toilettes sèches.
Oui, voilà. La première année. Exactement. Et un beau pied de tomate qu'on n'a jamais arrosé d'ailleurs.
C'est un seul pied.
On
dirait qu'il y en a.
Peut-être qu'il y en a plusieurs, je sais pas.
Ah, je pense que c'est un seul pied à la base. Hein. Le problème, c'est que c'était les tomates qu'on a achetées dans le commerce, qu'on a mangé l'année dernière, je pense. Du coup, c'est souvent des F1 et tu sais pas vraiment ce qu'elles vont nous donner.
Surprise.
Les F1, c'est celles qui sont faites pour pas donner de l'année d'après, c'est ça, non ?
C'est des hybrides de première génération, ouais. C'est pour ça qu'ils appellent F1. En gros, souvent elles sont pas stabilisées dans leur variété en fait. Du coup, elles sont sélectionnées pour ressembler à quelque chose, mais si tu les ressèmes derrière, soit elles sont même des fois complètement stériles, soit elles te donnent des choses aléatoires.
Okay.
Donc des fois tu as une bonne surprise, des fois tu auras des plus proche de la tomate sauvage telle qu'on l'a trouvée peut-être il y a 100 ans dans certaines îles. Donc faudra voir. Si c'est une bonne variété, on gardera les graines et ce sera une
bonne surprise.
Une tomate adaptée à nos besoins. Littéralement. Les choux ont bien commencé, hein. On voit qu'ils étaient beaux quoi. Et puis grosse canicule et là le chaud.
Et ceux-là c'est vraiment ceux qui sont
qui résistent les plus le beaux. Mieux, ouais. Tout ce qui est chou-fleur et tout, là, et je crois qu'on avait là-bas aussi.
Ouais, t'as vu la même chose que moi.
Ouais, voilà. Il y en a un autre là-bas aussi qui est percé. Hein.
Ah merde.
C'est les goutteurs qui sont
un peu... Ouais, elles seront bien arrosées là-bas.
Bah ça, c'est une sacrée goutte, hein.
Je l'ai vu il y a 2-3 jours.
Bah c'est les premiers goutteurs qu'on a récupérés.
Bas de gamme. Première erreur. Ne jamais acheter du bas de gamme en maraîchage.
En tout cas pour les gouttes-gouttes, ouais. Parce que là, ils sont super bons, tu vois.
C'est très fin, du plastique très fin, donc si tu mets pas de réducteur de pression, bah.
Ah ouais, ça explose.
Là il y avait des choux raves. Ça a bien marché dans les choux raves,
ouais.
Ici, tu m'avais dit.
Ouais. Là, les derniers qu'on n'a pas ramassés, ils stagnent. Ils
ouais.
Sont petits, mais les premiers.
Donc, je sais pas si tu vois ce que c'est le chou rave.
Si, c'est une racine ça, non?
Ouais, c'est le, comme un chou, mais ce que tu manges, c'est le bulbe qui a à la base. C'est assez bon.
Ouais, c'est comme le céleri rave.
Ouais, c'est ça, mais sauf que là c'est vraiment. Tu reconnais la texture du chou en fait, c'est plus juteux, tu vois, c'est pas la racine, c'est vraiment ça pousse en surface. On peut peut-être en trouver un petit là. Ça fait un petit bulbe en surface, c'est pas dans la terre. Ouais. Tu vois?
Ah oui, je vois. Ah, mais ça, j'étais persuadé que cette partie elle était dans la terre en fait.
Non, elle pousse au-dessus de la terre. Elle pousse au-dessus.
Ouais, c'est marrant.
Là-bas, un peu de maïs et des potimarrons. Il doit y en avoir un ou deux de beaux d'ailleurs.
Vous avez fait fait attention à l'association des cultures et tout
À des endroits oui, à des endroits non. Honnêtement, moi je l'avais jamais fait. L'association des cultures, vraiment, j'avais toujours fait comme je pouvais et ça avait toujours marché. Là, dans la serre, apparemment, il y a des endroits où les tomates n'ont pas bien poussé et elles sont près de courge. Alors peut-être que normalement, il ne faut pas les mélanger.
Ouais, on a fait quelques erreurs. Il y a des moments où on a planté au feeling et sans trop se poser de questions. Du coup, on s'est rendu compte après qu'a priori, ça pouvait être des erreurs. Mais après, est-ce que c'est pour ça que les tomates ne sont pas belles? On ne sait pas, mais on verra.
Il faudrait faire des tests randomisés sur... sur 100 ans pour savoir vraiment avoir un échantillon statistique.
Soir, normalement, on est pas mal, on a mis aubergine, carotte, céleri, branche. Et ce qu'on a vu, c'était bien.
Et donc voilà, le but serait ici, là, dans cette petite zone ici, à côté de l'enclos de Brigitte, de faire un petit îlot de forêt comestible avec des pruniers d'ici, des cerisiers griottes sauvages d'ici. Ça donne des rejets de partout, tu peux en prendre, en replanter là. Pour faire un petit îlot d'ombre forestière où tu ramasses justement typiquement du sureau, des trucs, tous ces trucs là qu'on mange pas forcément en fruits de bouche, mais que tu peux. Donc tu peux faire quelque chose.
Ouais.
De la confiture, du sirop, j'en passe.
Et du coup, c'est le futur enclos de Brigitte là que tu montrais.
Ici là ?
Ouais, ouais, enfin là-bas, celui-là là-bas.
Ah non, alors sinon, l'enclos de Brigitte, ça sera toujours plus ou moins celui-là, on va dire.
Ok.
Mais en fait, alors là d'ici on voit pas trop, mais.
Ah, c'est bon, on arrive à l'enclos de Brigitte. Et les chèvres sont dans l'enclos de Brigitte aussi.
Ouais, elles s'y plaisent. Elles aiment bien s'accompagner, elles doivent se sentir protégées, je sais pas.
Ouais, c'est possible, hein. C'est sûr qu'elle est imposante.
Sont... Ouais. Mais c'est vrai qu'elles y sont constamment. Et donc en fait, ici, si tu vois, c'est un demi-arc de cercle.
Ouais.
Et ici, ça fait comme un pétale. Donc on lui a ouvert. Elle fait sa vie, elle retourne, c'est même un peu trop grand pour elle puisqu'au final elle y retourne peu. Bon, là c'est un peu sec aussi, quand ça va bien pleuvoir elle va commencer à y aller. Et quand elle aura bien retourné ça, ben, on pourra le fermer, lui ouvrir un deuxième pétale ici. Et ici du coup tu lui sèmeras des choses pour qu'elle ait de quoi retourner, manger, gratter. Donc soit tu lui sèmes pour elle, soit même mettre des patates derrière pour nous et pour elle d'ailleurs. Ça peut être... c'est l'optique en tout cas. De faire par zone comme ça, où tu lui ouvres un pétale.
Et du coup c'est pratique parce que quand on voit l'état de la terre après qu'elle soit passée, c'est plus ça a l'air plus facile à travailler, on va dire.
Ah oui, c'est plus efficace qu'un tracteur.
Ah, c'est impressionnant.
Plus efficace qu'un tracteur. Mais il faut le temps.
Et ça fait combien de temps là qu'elle est dans celui-là?
Vous l'avez mis quand, Brigitte, dans cet enclos? 6 mois.
Ok.
Voilà. Tu retournes un truc avec un tracteur, tu ferais des allers-retours en 6 mois.
Oui, mais... c'est sûr. Et du coup, vous avez des animaux, mais c'est pas pour les manger. Enfin, Brigitte, le but, c'est pas de la manger.
Non, parce que... Non. On va pas manger Brigitte. Non, le but, c'est de faire plutôt ferme pédagogique et d'avoir un peu de vie animale. C'est quand même agréable. Et tous les animaux qu'on a ici, au final... Souvent c'était des dons, souvent c'était des gens qui les donnaient beaucoup plus que de l'achat vraiment. Donc c'était des gens qui pouvaient plus s'occuper de chèvres et qui on les prend ici. C'était une dame, la dame qui nous a donné. Elle nous l'a donné Brigitte ou
Oui. On a acheté aucun animal.
On a acheté, voilà, on a acheté aucun animal du berger. Sauf des poules, oui. Ah oui.
Je crois que par contre c'est les charbons.
Ah ouais.
Mais en fait, par exemple, Brigitte, typiquement, c'est la dame, on lui avait plus ou moins vendu un cochon nain, quoi, et quand il grossissait, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas s'en occuper.
Il y avait eu aussi, erreur sur la marchandise, quoi. C'est pas tellement un cochon nain, effectivement.
Donc tu vois ici, on voit ici bien l'état du sol.
Ah ouais, j'avoue.
Donc, dès que ça manque un peu d'eau, ça se fissure comme ça, et c'est de la terre très... Mais... très argileuse et morte, quoi. Enfin, pas morte, mais tu vois qu'elle a été beaucoup trop cultivée. Là, ça, ici, là, s'il pleut, tu vas avoir de la gadoue jusque là-bas, ça va ruisseler, tu vas tout perdre. Et tu creuses 20 cm, t'es directement sur la couche d'argile.
Bah, il va peut-être falloir quelques années avant de retrouver une terre un peu vivante, quoi.
Ouais, ouais. Bah, c'est aussi le but d'avoir ces animaux-là, c'est aussi justement de faire de la pâture. Pas forcément partout, mais de faire venir, entre guillemets, le paysage avec les animaux. Donc faire un peu d'éco-pâturage sans vraiment de but autre que ça, en fait. C'est-à-dire, le but c'est aussi de faire une ferme pédagogique, donc qu'il y ait des enfants qui viennent et qu'il y ait plein d'animaux, c'est hyper agréable pour eux. Pour voir comment ça marche, les animaux, tout ça, même si on les utilise pas de la même façon que d'habitude c'est fait à la fin.
Et oui, les poules non plus, vous avez décidé de pas en manger.
Non, puis après c'est pas forcément qu'un choix idéologique, il y a des végétariens sur le terrain, mais on l'est pas tous. Mais c'est qu'on s'y attache vite. Et je pense qu'aucun de nous sent vraiment de tuer l'animal. Moi j'ai travaillé avec mon oncle longtemps, on tuait les lapins. Au bout d'un moment, je me rappellerai toujours, un jour il a pris le lapin, il a commencé à le caresser pour le calmer, tu sais, c'est avant la coup de massue derrière les oreilles. Et au final, il l'a caressé, c'était une vieille lapine qu'il avait depuis je sais pas combien d'années, qui lui avait fait plein de petits et tout, et qu'il n'arrivait plus à tuer. Et même elle, il l'a pris dans ses mains, il l'a caressé, et il a dit, allez, c'est bon, tu rentres à la cage. Et il les a jamais tués. Enfin, il les a plus jamais tués à partir de ce moment-là, alors qu'il le faisait depuis des années. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'y attaches trop, il t'amène tout un lot d'emmerde, hein. Mais du coup, tu t'y attaches aussi beaucoup. Et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, et tu te dis, si... Pour l'instant, c'est pas dans la réflexion en tout cas. Et je pense qu'aucun de nous ici se sent tué un des animaux qu'il y a là. Vu qu'on. Enfin, il y en a qui ont. Le petit bouc là, Megaman, il a été élevé au biberon à l'intérieur de la maison quoi.
Oui. Mais du coup, les chèvres, vous utilisez le lait ?
Oui. Alors là, c'est des chèvres naines donc on n'a pas eu beaucoup de lait. Hein. Mais on a un peu. Quand... Mais il y en a une en fait qui a refusé l'allaitement à ses deux petits parce que les deux chèvres ont accouché en même temps.
Passage technique, on rentre dans la forêt.
Donc on a une qui a refusé l'allaitement. Donc on l'a trait pour déjà pour nourrir les autres et après pour utiliser le lait un petit peu. Ils ont fait quelques petits fromages. Et l'autre aussi, on a récupéré un peu de lait. Ils ont fait des fromages. J'ai eu la chance d'en goûter un morceau de pain. Ok, bon.
Bah c'est prometteur.
Bah c'est sûr que là les prochaines chèvres qu'on prendra, ce sera des vraies chèvres pour ça. Après, peut-être pas tous les ans du coup, parce qu'on n'a pas forcément envie de devenir une vraie exploitation laitière non plus.
Ouais.
Et puis, si on ne tue pas les animaux et qu'on entre guillemets s'en débarrasse pas, si tu veux avoir le lait, il faut avoir les petits quoi. Donc tu te retrouves très vite avec une centaine de chèvres.
Bah moi en fait j'ai pas fait de maraîchage vraiment. Après depuis que à la sortie du lycée je me suis mis rapidement à rencontrer des gens qui étaient dans le milieu quand même agricole et où, du coup j'ai appris à faire mon jardin à côté de ma yourte justement. Et donc c'est quand même toujours quelque chose qui m'a plu le travail dans la terre avec les plantes. Voilà, et je l'ai jamais fait à si grosse échelle en fait, et justement quand à ce moment-là, quand on se disait responsable de tel ou tel projet, je me suis dit bah ouais, carrément, parce que c'était le rêve justement de pouvoir me dire ça va pas juste être un petit jardin, là je vais pouvoir vraiment délirer à planter plein de choses, là c'est vraiment grand, c'est nos limites un petit peu.
C'est pas un petit jardin, ouais.
C'est pas un petit jardin, mais sinon non, j'avais jamais travaillé en maraîchage. Après j'ai fait des saisons agricoles de fruits quoi, mais c'est tout, c'est pas mon métier.
Okay. Et du coup, toi, c'est un peu toi, j'ai cru comprendre, qui a pris sous ton aile le côté voilà, maraîchage.
Je le sentais venir. Oui, voilà, on va dire pris sous mon aile, ouais. En fait, au début, du coup, avant, je sais pas si t'as vu la fleur qu'il y a sur le tableau, là.
Oui.
Ça, c'est notre système de tâches,
ouais.
En gros. Donc, avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était plein de quadrillages, un gros truc avec plein de lettres, hyper compliqué, avec toutes les tâches à faire. Tous les jours, il fallait noter ton nom dans un carré pour dire que tu l'avais fait, mais histoire que tout le monde comprenne ce que tu avais fait. Et du coup, quand on avait mis ce système-là en place, on avait aussi, quand on proposait un projet, il y avait un chef de projet, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire un responsable. Mais en fait, on fonctionne de moins en moins comme ça, vu que maintenant, on travaille tous les matins... tous sur les projets, sauf les deux personnes qui sont en binôme. Du coup, il y a plus il y a de moins en moins de responsables vraiment, je pense. Peut-être que j'ai lancé le truc au début et effectivement, c'est moi qui m'occupais de savoir quand est-ce qu'on allait planter telle chose à tel endroit. Enfin voilà, mais on est de plus en plus tous responsables sur ce qu'on fait, je pense.
Je vois des gens qui ont déjà des tomates, qui ont des légumes de ouf. Nous, on vient de commencer. Donc c'est même pas de la jalousie, mais plus de l'impatience de se dire putain, j'ai envie d'être à ce stade-là, j'ai envie d'être autonome, j'ai envie de ça. C'est pour ça que c'est intéressant de dire je vise l'autonomie et pas je veux être autonome. Tu seras jamais autonome à 100%. Heureusement, enfin sinon, c'est là où le débat marginal entre en cause. Est-ce que nous, on est marginaux? Non. On est juste parallèle à une autre société. Ouais, moi, mes parents, en tout début, le repas de famille, quand j'expliquais ce projet-là, c'était... les peurs, c'était « Ah, mais on connaît ce genre de mouvement, ça va se finir en secte, totalement reclus de la société, les enfants analphabètes. » Non, mais... Allô, quoi. Enfin, mes parents, ils ont eu ce côté... Enfin, ma mère a eu ce côté un peu... baba cool, reclus en Ardèche, prof d'une classe de 10 enfants... éduqué par une sorcière entre guillemets blanche qui lui apprend les plantes, etc. Donc elle a eu ce côté-là, mais elle s'est vite rerangée dans la case zone de confort. Je suis mieux quand même à Montreuil, dans une ville de bobos. Je suis plus stable, quoi.
Et est-ce que du coup, t'as eu l'impression qu'il y avait des trucs qui ont été difficiles à laisser derrière un peu? Genre, est-ce que t'avais des appréhensions?
Bah après, tu vois, ici, t'as vu, on a quand même l'électricité, la télé, on n'est pas coupé du monde. Donc au final, non, ça a été dur de partir au début parce que moi, ça se passait quand même bien dans mon travail. Genre avec mon entreprise et tout, c'était nickel. Après, le travail que je faisais n'était pas des plus passionnants, mais c'était surtout ouais, ce qu'il y avait autour. Voilà, de se taper les bouchons, de t'as des rapports avec les gens un peu différents. Même si on essayait, nous, déjà où on habitait, bah, d'avoir notre petit rythme. J'allais au travail en vélo, je faisais ma vie, mais bon, tu pouvais pas autant de liberté qu'ici, c'est ouais. Sûr. Parce que d'un côté, en ville, bah, on sortait beaucoup. Enfin, il y a une époque où voilà, on faisait pas mal la fête, etc. Mais au final, tu vois, moi, ça me va de faire des soirées où on est entre nous et on rencontre juste deux personnes. Bah en fait déjà au moins tu vas vraiment avoir un échange avec ces gens-là. Si ça se passe, et tu vois, ça fait 2-3 week-ends qu'ils vont revenir faire la fête avec nous, faire un peu de musique. Donc t'as du lien, après tu vas pas rencontrer 10 000 personnes, ou tu vas pas aller en grosse soirée, mais pff, moi j'ai un peu passé ce truc-là de... Voilà, quand il y aura une grosse soirée, il y aura une grosse soirée. Mais après ça me manque pas en fait vraiment la vie nocturne en ville. Ou... Et tu peux quand même faire du lien social, même au marché, tu rencontres des gens. Donc c'est sûr, tu vas pas, on rencontre très peu de gens de notre génération. Ouais. C'est toujours des gens un peu plus âgés. Mais c'est intéressant. Et puis c'est des gens aussi qui vivent ici, à la campagne. Ils ont une vision quand même différente des gens qui vivent à la ville, qu'ils soient ici depuis tout le temps ou pas. Donc ouais. Ça t'apporte d'autres choses quand même.
Et du coup, tu as parlé d'un projet que tu aurais qui serait encore...
Voilà, après, j'aimerais bien, du coup, ça fait des années aussi je pense à ça, monter un espèce de studio d'enregistrement où on pourrait faire des résidences d'artistes. Enfin, en vrai, mon rêve, ce serait un peu d'avoir un lieu où on puisse enregistrer de la musique correctement et faire venir des musiciens que je connais. Pendant 2 mois, et pendant 2 mois, on enregistre un album. L'année d'après, j'invite de nouveaux musiciens et on enregistre un autre projet. Enfin, et puis ça colle complètement avec avec l'idée de ce projet qu'il y a ici. Donc on y réfléchit. Après, c'est vrai que me lancer tout seul dans ce projet-là, ça fait un petit peu peur. Parce que c'est beaucoup de choses à gérer. Donc j'en ai parlé un peu avec une amie à moi qui a fait de la musique aussi, qui est à Amsterdam, donc conservatoire et tout ça. Je pense que ça la botterait un peu, donc faut voir comment le temps avance, mais c'est pas pour tout de suite quoi. Il faut déjà cibler vraiment ce qu'on veut faire comme projet, ce qu'il nous faut comme ressources, parce que ça va coûter beaucoup d'argent d'acheter tout le matériel musical pour pouvoir enregistrer, donc c'est un peu compliqué. Bah moi en fait tu vois j'ai envie de passer le diplôme du conservatoire à Albi, justement j'ai l'opportunité de pouvoir le faire. Et d'apprendre la musique en fait, d'apprendre à comprendre la musique, et chose que ici je ferais difficilement parce que pour aller à un conservatoire faut prendre une demi-heure de voiture minimum. Donc c'est vrai que j'ai envie d'abord d'avancer personnellement et professionnellement quoi. Et pour après arriver avec toutes les compétences et expertise.
Ouais. enfin, qui voilà. ont les compétences nécessaires pour...
Pour pouvoir lancer ce projet, quoi. C'est parce que c'est vrai que si je lance un studio de répète ou d'enregistrement et que j'ai aucune compétence en son, que je connais pas un peu la musique, si jamais je peux composer avec d'autres personnes et tout ça, c'est vrai que c'est un peu nul, quoi. Girl wants to look around. Little girl just hears a sound. Today is a day of the whistling train. Today is a day of roaring rain. Last day.
Girl and the Whistling Train du groupe The Inspector Clouseau sur Radio LBGS. Alors pourquoi le choix de ce groupe ? Eh bien parce que en plus de leur activité de musicien et leur tournée dans le monde entier, les membres sont installés depuis 2013 dans une ferme landaise où ils pratiquent l'autosuffisance et développent une activité d'éleveur d'oies de manière traditionnelle. Et pour continuer ce magazine hors format, on retourne donc au domaine des matras dans l'Allier, une autre ferme qui cherche à développer l'autosuffisance. Et on retrouve Virgile pour la suite de la visite des lieux.
Alors là, du coup, c'est quoi l'inventaire un petit peu des animaux?
Et ben, pour l'instant, on va se mettre à long peut-être. Pour l'instant, il y a deux chèvres naines qu'on a eues dès le début, le bouc qui a suivi, le cochon, Brigitte, la cochonne d'ailleurs, pardon, qui est un mélange cochon noir et cochon rose. Et du coup, on a une portée avec les deux chèvres et le bouc de 3 chevreaux. Et on a en tout 3 chiens sur le terrain, plus 5 poules, dont 6 poules, dont un poussin qui a quelques mois, et un coq. Voilà.
Ok. Et ça commence à faire pas mal.
Ouais, c'est pas mal, ouais. Puis bon, pour l'instant, on se prépare à accueillir d'autres en projet. C'est l'âne, le futur projet justement.
Ouais.
Parce que bon, bah, on a tous envie d'avoir un équidé sur le terrain. Parce que c'est quand même cool d'avoir un âne. Et puis comme on tend à devenir une ferme pédagogique, c'est quand même les animaux emblématiques. Si tu veux faire visiter ta ferme, si t'as un âne, c'est quand même beaucoup plus cool pour les enfants, pour les gens, de leur faire découvrir justement le partage qu'il peut y avoir dans une ferme.
En plus, il y a un sacré l'âne s'il broute et que tu récupères le crottin.
C'est ça, ouais. En plus, c'est un sacré désherbant, quoi. C'est assez utile quand on a 8 hectares et qu'on ne veut pas faire venir un tracteur. C'est plutôt utile.
Ouais.
Voilà.
Mais là, il vous ferait du ménage, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Après, bon, avant de bouffer le chardon, il va bouffer les bonnes herbes. Hein, mais au bout d'un moment, il n'y aura que du chardon. J'espère qu'il va le bouffer.
Ouais. Du coup, est-ce qu'on fait un petit tour à l'intérieur, un peu voir?
Ouais, tu veux monter, peut-être.
Eh ben ouais, carrément, avec plaisir. Bon, alors là, du coup, on s'est en plein pendant les travaux de la toiture, là, vous allez devoir refaire toutes les toitures.
Toute la toiture, mais c'est-à-dire que de la couverture. Donc la charpente, bon, mis à part la tour, parce qu'il y a une tour sur la bâtisse qui est collée. Mis à part la tour, on pouvait pas savoir si la charpente était bonne avant d'enlever les tuiles.
Ouais.
Et ben là, on a une surprise, c'est que la charpente est complètement pourrie, donc il va falloir changer la charpente de la tour.
Ça va aller, super surprise.
Là, c'est une mauvaise surprise, ouais. Très mauvaise. Donc c'est plus de temps, plus d'argent. Voilà. Hop. Il y a l'échafaudage qui gêne un petit peu.
Donc là, on est au premier étage de la bâtisse qui vous sert d'habitation. Là.
C'est ça. Donc là, c'est... L'aménagement est toujours en discussion.
En tout cas, c'est une sacrée belle pièce. Hein. Et ouais. Du coup, est-ce que vous saviez qu'est-ce qu'il y avait avant ici? À quoi ça servait?
Je crois que... Après, c'est du 15e siècle, donc des choses, il y en a eu. Ouais. Et puis même avant, c'était reconstruit. C'était déjà une zone où il y avait déjà une ferme. Donc bon, et il y a beaucoup d'antécédents sur ce lieu. Mais je crois qu'il y a 40 ans, c'était un truc de bonne sœur ou un truc religieux. Et c'est pour ça qu'il a été morcelé, le truc, pour faire plusieurs zones d'habitation. Par exemple, là-bas, de l'autre côté de la bâtisse, t'as carrément une pièce qui est accessible que de dehors. Donc c'est assez, étrange quand tu y réfléchis. Mais en fait, non, c'est juste une pièce, une chambre, en fait, pour accueillir une chambre en plus, quoi. Mais c'était apparemment la maison du bon Dieu ici. C'est une vieille du coin qui nous a dit ça ici. Elle nous a alpagué au marché, elle nous a dit vous savez, ici c'était la maison du bon Dieu, hein, vous pouvez venir ici, on vous est accueillis comme des rois, vous partez toujours avec des trucs. Elle n'est pas allée plus loin, mais bon, ça nous a fait sévir quand même, la petite anecdote.
Ouais, c'est marrant.
Parce que bon, du coup, ça va être à peu près la même chose ici, hein, c'est qu'il y aura beaucoup de monde et puis on veut être beaucoup dans le partage, donc si on nous dit ça un jour, ça serait un bon compliment, je pense. Ouais.
Il y a juste le dieu.
Oui, bon, bah ça, après, on s'arrange comme on veut. Il faut prendre les compliments comme peut-être qu'ils sont. Après.
Ah, mais c'est marrant de voir justement comment une maison... Il y en a qui croient à l'âme des lieux.
Tu sais, ouais. Genre, moi, pas trop, mais
ouais.
Je suis pas trop dans ce délire-là parce que j'ai fait... Moi, j'étais dans la restauration du bâtiment... Restaurateur de monuments historiques, voilà.
Okay.
Donc des bâtiments, peut-être des cathédrales, des châteaux qui ont des siècles et des siècles. J'y suis allé et j'ai jamais senti une atmosphère différente. Alors peut-être que je suis pas réceptif, hein, mais moi qui ai travaillé pendant des mois et des mois dans une église ou dans des cathédrales, j'ai pas senti l'appel de Dieu, j'ai pas senti les âmes me parler. Mais bon, après, c'est chacun sa croyance. Mais...
Après, c'est pas forcément de ce côté-là, mais c'est juste se dire on arrive dans un lieu, on s'y sent bien. Et des fois, il y a des lieux, c'est pas explicable. Genre, t'arrives dans un lieu, tu t'y sens bien, et un autre, tu sais pas pourquoi, même s'il est beau, il est accueillant et tout, il y a un truc qui bloque. Tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Et ici, je me dis, si c'est la première visite que vous avez fait, que vous avez dit, bon, vas-y, banco, il y a peut-être eu un truc, même qui soit peut-être imperceptible, mais qui parle quand même.
Ah, moi, de toute façon, c'est la bâtisse. Hein. Moi, quand je l'ai vue, elle m'a tout de suite plu. Hein, parce que j'ai travaillé là-dedans, et voir une bâtisse à restaurer comme ça, c'est le kiff, quoi. Surtout que tu sais que ça fait quand même c'est quand même 6 siècles qu'elle est là, et t'as juste à restaurer un petit peu et tu sais qu'elle peut tenir encore 6 siècles, donc ça vaut le coup, quoi. Ouais. En fait, ça vaut le coup de refaire une maison à neuf en méthode traditionnelle française, de faire ça en provisoire, parce que même si c'est pas dit en provisoire, dans 40 ans, on va falloir tout refaire parce que sinon c'est la merde, quoi. Alors que ça, bah voilà, ça fait des années que c'est là et que ça bouge pas, quoi.
Si c'est bien refait, ouais, ouais, voilà, ça va tenir longtemps. Bah, si tu veux nous expliquer un peu plus sur les ateliers,
ouais,
cool. C'est ce qui est réservé pour l'autre grande bâtisse, si j'ai bien compris.
Bah alors, pour l'instant, mon atelier, moi, étant donné que c'est un atelier bois, que je compte refaire tout, la menuiserie intérieure, tout en fait, je voudrais tout refaire moi-même, c'est-à-dire d'une part pour faire tout personnalisé, en fonction des envies de chacun. Et deuxième part, parce qu'on va faire des économies énormes en fait en faisant tout nous-mêmes. Donc pour l'instant, cette bâtisse-là, on va mettre mon atelier au rez-de-chaussée,
okay,
ici. C'est pour ça que j'ai besoin du 380 ici. Mais sinon, plus tard, oui, les autres ateliers sont dans l'autre bâtisse. Mais ce sera beaucoup plus tard là, on doit vraiment s'organiser pour faire ça ici,
ouais,
rapidement et juste. Parce que sinon, on tombe dans le style de travaux qui dure des années et des années. Et moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Je veux que les choses soient faites assez rapidement et
ouais. Je te suis peut-être.
Allez. Donc voilà. Donc la bâtisse que tu vois là qui est complètement pourrie au niveau du toit, ben.
Et alors c'était quoi ça avant du coup?
Bah c'est sûrement là où il y avait les bêtes, parce qu'il y a encore les mangeoires, donc soit vaches, soit chèvres, soit. On sait pas trop quoi. Donc là, t'avais l'entrée principale qui sépare un peu la bâtisse en deux.
Ouais.
Donc nous on voudrait démolir tout ça, faire deux maisons séparées,
okay,
et relier les deux par une espèce de verrière tropicale si tu veux.
Oh.
C'est l'idée hein, pour l'instant. Mais...
Ah, ça a de la gueule dit comme ça.
Mais bon, c'est assez compliqué à mettre en place, ne serait-ce que par autorisation, étant donné qu'on a des financements sur la bâtisse du 15e siècle qu'on veut faire restaurer, on a des normes, un cahier des charges à respecter, donc on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut.
Et vous avez des financements, tu dis, donc, c'est-à-dire si vous dites nous on vient, on restaure un peu un bâtiment historique, comme ça il y a des aides
Ben, c'est pas un bâtiment historique, c'est un bâtiment remarquable, mais là,
okay,
étant donné que c'est un bâtiment remarquable, on a le droit, vu que c'est un bâtiment typique de la région, c'est-à-dire que des fermes comme ça, t'en as plusieurs qui vont peut-être aménager différemment, mais t'auras toujours la tour carrée, c'est toujours daté du 15e siècle, avec des choses typiques avec le four à pain, tu vois, collé à la maison. Et de ce fait-là, comme ils veulent remettre un petit peu le comment tu dis, pas du paysagisme,
le patrimoine. Mais,
le patrimoine, exactement. Ils veulent restaurer le patrimoine de l'Allier, tu vois, justement, ils financent ce genre de projet, mais par contre, tu dois respecter certaines choses, quoi. Donc, tu pourras pas demander un financement et faire un gros toit terrasse, tu vois. Il faut que tu suives la logique qu'il y avait de...
Rooftop avec soirée DJ, after work.
Ils sont pas stupides, du coup, ils demandent de respecter. Tu peux pas faire des travaux sans leur demander. Et avoir leur accord, quoi.
Ouais. Et du coup, là, pour le toit, par exemple, vous avez pu avoir des aides?
Parce que oui, là, on a... Pour l'instant, bon, c'est pas encore sûr, mais on... Enfin, si, normalement, c'est sûr et certain. On a deux financements, de 20% chacun.
Ok.
Des montants totaux, des travaux, quoi.
C'est pas mal.
C'est pas mal du tout.
Et c'est qui? C'est la mairie, le conseil départemental?
C'est la région, je crois, okay, et le patrimoine. Mais je pourrais pas te dire, j'oublie. C'est moi qui me suis occupé de tous les papiers avec d'autres personnes, mais c'est le genre de choses que j'ai du mal à intégrer quand même. Le nom des trucs.
Ouais, du coup, on n'a pas parlé de cette magnifique serre igloo encore.
Ouais.
C'est la première que vous avez construite, celle-là?
Ouais, c'est ça, avec le collègue Terence qui est maintenant en vacances. On s'est motivé justement à notre première serre, parce qu'on voulait avoir une serre assez rapidement et à moindre coût. Donc on est allé chercher du bambou, simplement, et bon là elle commence à être déformée avec la chaleur et le poids de la bâche.
Bah, ça va encore hein.
Ouais, mais plutôt efficace hein. Après en été peut-être un peu trop de chaleur, pas assez de circulation d'air, donc c'est pour ça que les trous on les laisse maintenant.
Bah ouais, il faut que l'air circule un peu.
Ouais ça. Ouais, c'est bon, c'était plutôt bien pensé, moins bien travaillé on va dire, donc après on veut le transformer totalement et enlever toute la bâche et faire un coin de chill avec des plantes grimpantes.
Ah, vous allez garder la structure en bambou, ouais, pour faire des plantes qui grimpent autour.
C'est ça.
Ah, ça va être stylé.
Style vigne, d'autres pas kiwi parce que Dina est allergique au kiwi.
Et là du coup vous avez voulu faire un petit
alors,
espace relaxation.
Juste là, entre la maison et la serre, c'est l'espace jardin des moines, j'aime bien l'appeler comme ça. Parce que c'est un espace aromatique avec différentes plantes, des arbres fruitiers, de la sauge et des fraises. avec deux beaux figuiers. En fait, c'est tout symétrique, justement pour rappeler un côté justement humain à la nature. C'est assez drôle de faire ça. Et toutes les planches de culture sont entourées de pierres.
Ouais.
Donc pour l'instant, il est petit. On tend à le faire à l'agrandir, justement, toute cette zone, avoir des structures comme ça, en fait, assez géométriques, mais qui restent très proches de la nature, quoi. Donc là, par là, il y aura prochainement le four à poterie que j'aimerais bien installer. Bon, j'ai jamais fait de poterie, je commence à peine, mais je voudrais faire un four, comment ça s'appelle, pas préhistorique, mais un four franco-gallois ou gallois, romain, gallo-romain, 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 c'est ça. Et donc en fait, c'est juste un four style four à pain ou pizza, mais en fait c'est où tu arrives à monter à des hautes températures pour cuire ta poterie, quoi, mais c'est primitif, quoi. Donc tu utilises que du bois essentiellement, et en fait c'est des cuissons qui durent des heures, en fait. Donc je voudrais créer un aménagement pour que les gens puissent s'asseoir, que ce soit assez convivial justement, et que tu puisses, pendant faire ta cuisson de poterie, ben tu puisses discuter avec les autres autour du feu, quoi. C'est assez cool, je pense.
Mon plan initial, c'était que dans 5 ans, enfin, il y a un an, donc dans 4 ans on va dire, d'avoir remis un peu la zone où on cultive en état, on va dire, d'avoir remis un peu de vie dans le sol, pour pouvoir commencer à être rentable. On aurait pu le faire de la première année, mais ça aurait nécessité plus d'investissement, ce qu'on n'avait pas, plus d'argent, plus de temps à consacrer, mais avec la rénovation de la bâtisse, avec les projet de l'assaut et tout ça, il n'y a pas le temps non plus. Donc mon plan, c'était de le faire en 5 ans, d'y aller tranquillement, d'avoir au début de quoi commencer à manger un peu, puis de plus en plus. Donc voilà, la première année, ils ont eu quelques trucs à manger. Cette année, ils ont déjà beaucoup plus de choses. L'année prochaine, peut-être plus de choses à vendre. Là, ils ont déjà quelques plants, plants de petites salades, des plants de tomates, des plants d'herbes aromatiques à vendre. Et dans 5 ans, d'être rentable. Rentable au sens que non seulement tu arrives à te nourrir, mais en plus tu as assez pour vendre, pour apporter de l'argent à l'association, pour investir. Parce que là, c'est vrai que sans investissement, tout ce qui est irrigation et tout, c'est toujours un peu rafistolé, quoi. C'est du bricolage, mais c'était aussi l'objectif, de pas avoir à investir et de le faire progressivement. Donc ça, c'était mon plan initial. Dans 5 ans, être rentable. Et aussi avoir les premiers fruitiers qui donnent. Donc la première année, il y a 2 ans, j'ai déjà planté quelques fruitiers un peu partout, par zone. Et donc ça, c'est le deuxième projet. Commencer aussi à avoir un peu d'argent qui rentre pour pouvoir investir plus massivement sur des arbres fruitiers et sur des arbres pas fruitiers non plus, pour faire venir la forêt vers nous, en fait. Avoir une plus grande zone de forêt. Donc des zones ombragées, des zones... aussi pour avoir de la matière organique qui tombe sans avoir énormément d'efforts à fournir. C'est-à-dire que si tu mets près d'une planche de maraîchage, tu te mets un pêcher et tu as juste qu'à ratisser les feuilles pour pailler ta zone, quoi. Donc voilà, c'est travailler comme ça avec le moins d'efforts possible, tout en sachant que faut pas idéaliser non plus, ça vous sera pas tout seul. Mais essayer de maximiser, ou du moins minimiser l'effort en maximisant ce que tu peux en faire.
L'efficacité, quoi.
L'efficacité, ouais, c'est ça.
À 5 ans, comment je vois le truc? Moi, en tout cas, ce que j'aimerais, mais je pense que c'est ce qui peut se passer, c'est que dans 5 ans, tous les tâches du haut de la bâtisse, ça soit un minimum restauré pour accueillir. Et puis pour pouvoir faire des événements, que ce soit des conférences, des concerts, des spectacles de théâtre, des cours de danse, voilà. La totale. Idéalement, ça serait ça, et puis qu'on puisse... accueillir aussi des woofers, qui est une structure pour, que ce soit des yourtes ou un dortoir, ou enfin quelque chose que amener d'autres choses un peu vivantes et qui est du passage, en fait. C'est comme ça que je vois les choses.
Ça serait bien que ça se développe ici, qu'on puisse trouver des idées de rentrer de l'argent dans l'association, voilà, de Alors je sais pas, voilà, que ce soit par la nourriture ou par des constructions ou par des interventions, qu'on arrive à faire vivre ce lieu. Moi j'ai pas non plus besoin d'énormément de besoins, je veux pas, j'ai pas des rêves grandioses ou quoi que ce soit, mais juste de pouvoir mener cette expérience et prendre du plaisir, ne pas rentrer dans un schéma où on va se torturer non plus au travail, ça reste quand même important. Et voilà, qu'à un moment ça soit un lieu d'accueil où chacun puisse venir, nos familles elles sont un peu passées déjà, c'est cool, tu vois, et que aussi bah, c'est un projet, pour moi c'est vraiment le début du projet, donc c'est peut-être le moment le plus dur au final, parce que bah, t'as rien qui est là pour l'instant. Mais déjà en un an, on peut voir déjà ce qui a été fait. Et juste de se dire, bah voilà, il faut continuer vers ça et après apprécier ce qui aurait été produit ici, quoi.
Bah, déjà, la base, c'est qu'on soit autonome à 100%. Donc,
En alimentation.
Que même on soit rémunéré, en quelque sorte. Bon, là, c'est vraiment au long terme, mais qu'on n'ait pas d'argent à sortir, nous, pour investir dans le terrain. Là, pour moi, c'est déjà un beau palier qu'on peut acquérir à court moyen terme, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier objectif du terrain, quoi. Que ce soit pas un gouffre, hein, qu'on est tous, qu'on soit indépendant, quoi, et que le peu de 4 sous que je gagne, que ce soit avec des aides sociaux ou autre chose, bah, que ce soit pour moi, pour mes projets encore plus perso, quoi. Donc, ce sera là que c'est pour moi le but ultime à atteindre maintenant, tu vois. Après, le plus long terme, c'est d'avoir des gîtes. Donc, des gîtes, d'avoir des zones sur le terrain qui sont morcelées pour faire des promenades. Comme il t'a dit, Christian, c'est par exemple le jardin japonais, le chemin qu'on veut remettre en état, le chemin des Facholes. Parce que là, c'est la route des Facholes, mais là-bas, non, c'est le chemin des Facholes, c'est une route. Et on voudrait décaler, faire un chemin en parallèle pour les passants, parce qu'il y a beaucoup de passants ici. Leur mettre en état pour que les gens du coin ils marchent là sur notre terrain, que beaucoup de gens viennent. Moi après sur le plus long terme c'est de créer mon atelier bois et de faire mes créations pures et dures en sculpture et pour pouvoir me faire encore 3-4 sous et pour partager mon savoir, ben, faire des stages découvertes plus ou moins haut niveau, quoi, en fonction de des niveaux des gens, quoi. Soit c'est mon but perso ici sur le terrain. Voilà.
Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui seraient intéressés pour se lancer dans ce genre de projet, s'ils ont encore quelques petits freins, quelques blocages?
Bah je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que faut déjà réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et qu'ils idéalisent pas non plus. Un mode de vie trop facile. C'est-à-dire que la ville, ça a des intérêts aussi, qui est la facilité de vie. Tu as tout à portée de main, tu rentres dans ta routine de vie. Ici, tu as énormément d'imprévus. Tu travailles quasiment au jour le jour pour ajuster. Donc il faut pas hésiter à y aller si on a envie, mais il faut être sûr qu'on ait envie.
Qu'est-ce que je leur dirais ? Je leur dirais que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer, peut-être, et que ça demande pas tant de travail que ça. Enfin, si tu parles par exemple de s'installer et d'essayer d'être autonome, il y a plein de gens. Après, là, on n'est clairement pas encore autonome, mais il y a beaucoup de personnes qui nous disent, qui sont fascinées, qui nous disent ah, c'est incroyable ce que vous faites, tout ce travail qu'il y a. Enfin, vraiment, comme si c'était quelque chose d'un peu difficile à mettre en place et qui sont impressionnés. Et en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a beaucoup de moments où à la ferme, on suit pas des masses quand même. Enfin, on travaille le matin, l'après-midi, on lit des BD, on regarde des films, on va faire des promenades. Enfin, on a vraiment beaucoup de temps libre au final. Après, je pense que ce qui est difficile, c'est si tu veux t'installer tout seul. Là, à mon avis, c'est pas le même projet aussi. On en voit des maraîchers qui, au bout de quelques années, sont fatigués, ont mal au dos. Ça peut se comprendre. Nous, on est 5. Peut-être qu'on serait amené à être plus, donc tout le travail qu'on fournit, ça nous laisse beaucoup de temps pour autre chose aussi. Donc rien que pour ça, ça peut donner envie de se lancer, je pense. Il y a plein de gens qui manquent tellement de temps pour faire des projets personnels autres, en dehors du travail. que je trouve que c'est déjà un bon argument de se dégager du temps.
Je sais pas, après j'ai jamais été trop dans le schéma classique, c'est-à-dire que j'ai eu un appartement pendant des mois et est-ce que me sortir de là. Moi j'ai toujours tendu vers ce genre de projet, donc je peux pas se dire qu'est-ce qui va débloquer la situation, mais après tout ce qu'on peut proposer c'est de dire aux gens de venir ne serait-ce qu'une semaine, deux jours, deux mois, et puis de voir comment ça se passe. Nous on est là exprès pour ça, quoi, pour partager ce qu'on sait ou pour justement engendrer d'autres savoirs que les gens peuvent ramener, justement. Donc n'importe qui est la bienvenue pour savoir s'il a sa place dans ce genre de projet, quoi.
Et donc tu disais il y a un petit peu une dynamique dans le coin là autour de ça, vous sentez des gens un peu comme vous qui sont venus de la ville pour s'installer?
Ah oui, ça
là,
par ou... contre, ouais. Je sais plus comment c'est quoi ce terme d'ailleurs, les néo-ruraux. Les néo-ruraux. Ouais. Bah, on a une bonne communauté de néo-ruraux justement avec qui on s'entend très bien. Et d'ailleurs on a eu un débat là-dessus, pourquoi on ne s'entend pas si bien avec les ruraux, qu'on s'entend plus avec les ruraux qu'avec les néo-ruraux. Bah, c'est tout simplement parce que...
Vous entendez plus avec, t'as dit?
Les néo-ruraux, ouais.
Ah ok,
qu'avec
ceux qui sont arrivés récemment.
Ouais. Bah ça, je sais pas, j'imagine que c'est des gens qui ont voulu changer de vie et qui ont une autre mentalité et que du coup se retrouvent en campagne pour faire des projets et tout ça. Donc forcément ils cherchent à avoir une autre connexion, enfin, ou des connexions, que nous aussi on est arrivés, on a cherché ces connexions-là, on s'est tout de suite trouvés. Alors que les ruraux, ben, ils ont leur place, ils sont là depuis des générations, et puis les nouveaux de la ville, parce que bon, on n'est pas forcément de la ville, hein, mais c'est des nouveaux de la ville, donc forcément, il y a un petit temps d'adaptation, je pense, j'imagine, à franchir. Il faut juste faire ses preuves, montrer qu'on n'est pas là pour faire n'importe quoi, et qu'on est dans un lieu, on veut pas faire carnage, on veut pas faire des gros stuff, on veut pas se foutre de ce que font les autres, quoi. On veut vraiment faire un partage. C'est vraiment notre but, on ne veut pas s'imposer et être reclus, on veut vivre dans l'autonomie, mais dans un mode de partage, en fait, quoi. C'est pas ce qu'on veut, justement, être enfermé sur nous-mêmes, quoi. C'est le contraire, justement, et c'est ce que pensent les gens, quoi. Les ruraux, en général, ils pensent qu'on veut être là juste pour faire nos trucs et rester entre nous, mais nous, si on pouvait partager une bière avec eux, ça serait avec plaisir. Sauf que malheureusement, ils nous voient d'un œil différent et ils ont beaucoup de jugements sur nous, ne serait-ce que parce que, tu vois, un agriculteur dans le coin, s'il coupe pas son herbe, tout de suite il va se faire taper sur les doigts. Et nous, on n'a pas envie de couper tout ça parce qu'on veut laisser la nature reprendre ses droits et on veut laisser la végétation, la faune et la flore, enfin la faune et la flore justement revenir, parce qu'avec les méthodes de culture qu'il y a eu sur le terrain, ça a fait fuir toute la faune et la flore, quoi. Et on le ressent, hein, tu vois, il y a des zones qui sont tellement arides qu'il n'y a plus rien qui pousse, quoi, mis à part du chardon. Ouais. Donc on va se faire taper sur les doigts parce qu'on n'a pas coupé les chardons, tu vois. Et les chardons c'est assez volatile, les graines, donc forcément ça les fait chier, quoi, mais bon.
Après c'est en discutant aussi, parce que comme tu disais, faire ses preuves, c'est vraiment l'expression que j'entends le plus souvent dans les... Ouais. Comme Atanus par exemple, l'autre projet de jeunes qui ont à peu près le même âge que vous et qui se lancent aussi dans un truc comme ça. Et c'était ça qu'il disait, le regard des gens d'ici.
Ouais, oui.
Il s'est très centré sur la valeur travail.
Ouais, c'est ça.
Il l'ultra présente dans le milieu agricole, paysan, quoi. Et du coup il fallait que les petits jeunes qui arrivent montrent qu'ils savaient en faire, quoi.
C'est
ça. Du coup, il disait, ouais, ça a mis le temps, on a discuté avec eux, mais après...
Il faut voir qu'on n'est pas là juste pour les faire chier, qu'on n'est pas là Après, c'est parce qu'on arrive avec un autre fonctionnement. Ça fait, je pense que ça leur fait à la fois peur, et en même temps, peut-être des fois, inconsciemment, ça les fait envier, parce qu'ils sont dans un système qui sont très, très... C'est assez difficile pour eux, pour la plupart des agriculteurs, en tout cas en France, c'est assez compliqué, quoi. Je veux dire, t'es quasiment toujours dans le schéma... subventions, crédit à repayer, et puis il y a toujours tu dois toujours faire une rentabilité chaque année, et puis si t'as une saison qui foire, t'es dans la merde, quoi. Ouais. Parce que justement t'as des sommes faramineuses à payer, ou t'as des engagements envers justement les COP et tout ça, et si tu foires ton délire, t'es dans la merde, quoi. Nous c'est la problématique qu'on n'a pas, c'est pour ça qu'on n'a pas de crédit, on n'a rien, parce que c'est mes grands-parents qui ont financé tout ce projet là. Et donc du coup, partir de ce principe-là, on a un avantage énorme, c'est qu'on peut prendre notre temps, en fait. On n'est pas obligé de faire de la production pour pouvoir rembourser tout de suite le crédit. On peut vraiment faire les choses bien, carré, on peut y aller tranquillement, avancer dans les idées de chacun, plutôt que de vite se lancer dans un truc qui pourrait ruiner notre relation, notre projet, en fait. Ouais. On peut vraiment prendre notre temps, et ça c'est un beau point fort qu'on a, donc...
Enfin, c'est presque un luxe, on pourrait dire, de ça.
Ouais,
sauf
ouais.
que c'est toujours forcément, pour démarrer un truc comme ça, il faut des financements.
C'est ça.
Et effectivement, à partir du moment où tu as quelque chose à rembourser, tu as une rentabilité à atteindre, et donc...
Donc tu te contrains à...
Donc oui, vous avez quand même, on peut le dire, un peu le luxe de pouvoir avoir ça, et du coup d'avoir l'esprit assez tranquille.
Ah ouais, c'est ça, c'est ça.
Ouais, mais merci Virgile.
Eh ben, avec plaisir, j'espère que tu repasseras.
Bien sûr.
Tu seras là la soirée pizza peut-être?
Ah ben bien sûr, on en entendra quelques échos. J'essaierai de brancher le micro pendant que...
Ah cool.
On boira des coups.
Il y a jam session en plus, donc ça serait intéressant de mettre les micros.
On va finir là-dessus.
Bon, on s'excuse pour l'effet d'annonce, mais les quelques enregistrements de cette fameuse soirée Pizza Jam Session n'étaient clairement pas à la hauteur de nos espérances et n'avaient franchement pas un très grand intérêt radiophonique. Mais les pizzas et la soirée étaient excellentes, on vit pris de nous croire. C'est donc là-dessus qu'on clôture cette deuxième et dernière partie de notre escapade estivale à Matra-sur-Terre. On remercie une dernière fois Christian, Dina, Elio, Lorelai, Titouan et Virgile que vous avez pu entendre au micro pendant cette émission. Un grand merci à vous pour votre accueil chaleureux au domaine des Matras. Alors pour plus d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à suivre Matras sur Terre sur les réseaux sociaux. Et pour réécouter ce magazine, rendez-vous sur radioalbiges.com ou bien sûr notre page Facebook. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Albiges et on vous dit à très bientôt sur les ondes pour un nouveau magazine hors format.